Je vais vous proposer une intervention également brève et même abrégée par rapport à ce qui était prévu. La question que je trouve intéressante à poser, quand on parle de l'héritage musical de Boris Vian et qu'on dit les chansons de Boris Vian. Il y a un premier paradoxe, c'est que les chansons de Boris Vian, ce sont avant tout des textes. Il a écrit des textes. Donc, ce que je voudrais juste développer ici en quelques propositions, c'est est-ce que, bien qu'il soit auteur de textes, il a quand même une posture musicale qui peut constituer, à nos yeux contemporains, un héritage proprement musical. C'est-à-dire, est-ce que la musique des chansons de Boris Vian, musique qui n'est en général pas de lui, est néanmoins un héritage musical de Boris Vian? Vous voyez un peu. Donc voici les quelques pistes que je vous propose pour finalement défendre ce point de vue, qu'il y a bien une musique de Boris Vian, même malgré, dans ses chansons, dans les chansons, hein, je parle du répertoire chansons, même si il n'est que rarement en soi compositeur de ces musiques de chansons. Alors tout d'abord, il est quand même compositeur de quelques chansons. Une proportion assez faible dans l'ensemble de toutes celles dont il a écrit les textes, mais enfin, quelques-unes. Prenons pour exemple « Valse dingue »,« Huit jours en Italie »,« Nic-nac, padiwak », »,« La dernière valse »,« L'araignée du soir »,« L'anguille », je pourrais en citer encore quelques autres. Alors, il dit lui-même dans une interview à la radio que quand il compose, ce qui lui vient, comme il n'est pas suffisamment formé, dit-il, à la musique, ce qui lui vient, ce sont des mélodies faciles et que par conséquent, il aime mieux travailler avec un compositeur à qui il va confier une mélodie qu'il aurait premièrement élaborée et puis qui va perfectionner cette mélodie. Et alors, pour citer ses termes exacts, « Je demande à un professionnel de la musique de me refaire un air dont l'harmonie soit plus astucieuse, dont la mélodie soit un peu plus recherchée et tout ça. » Et il a donc une démarche assez bizarre qui consiste à écrire un texte en pensant une musique qui est de lui, et puis à éliminer cette musique et à confier le texte fini, mais pensé par rapport à une musique, donc avec un rythme en tête, et probablement une mélodie aussi, il parle de rythme dans la citation que j'ai, de la confier à quelqu'un d'autre. Il l'a fait par exemple pour la Java des bombes atomiques. Il dit lui-même, la Java des bombes atomiques, j'ai composé une musique trop facile et trop simple, qui ne m'a pas plu, mais qui m'a servi de monstre musical, si vous voulez, pour le rythme de la chanson. Et j'ai donné les paroles, donc les paroles seules, à mon pianiste Alain Goraguer, qui a composé une superbe Java. Puis il y a un autre cas un peu intermédiaire où il confie non pas le texte seul, mais une ébauche de mélodie que le compositeur va perfectionner. C'est le cas des chansons dont il est co-compositeur, par exemple Le Déserteur. Ça a fonctionné comme ça. Donc ça, c'est une première chose. Après, il y a le cas de figure le plus fréquent et dont relèvent les chansons les plus célèbres, celles qui sont un peu dans toutes les compilations, dans toutes les mémoires. C'est le cas où il est en partenariat étroit avec un compositeur, qui est souvent aussi un musicien qui va arranger ou jouer avec lui, et où l'un va faire la musique, donc il a un compositeur qui lui fait la musique et lui fait le texte. Alors là, il y a des fonctionnements très intéressants dont j'ai obtenu la description détaillée grâce à Jimmy Walter. Alors Jimmy Walter n'est pas ici aujourd'hui, nous l'avions invité, et puis pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait, mais il m'a accordé une longue interview téléphonique. D'ailleurs, je tiens à le remercier, puisque je suis en train de parler lui, de le remercier de cela. Et dans cette interview, et puis dans quelques autres textes sur lesquels il m'a renvoyé, il a précisé beaucoup le fonctionnement de co-création qu'il pouvait avoir avec Boris Vian. Alors, une première chose à souligner, c'est que cette création à deux, elle se fait vraiment à deux en coprésence. C'est-à-dire que Jimmy Walter a été le pianiste et le musicien de Boris Vian pendant un an, et pendant un an, ils se sont vus tous les jours. Donc, ils travaillaient tous les jours sur des chansons. Deuxième chose, la rapidité. Lié d'ailleurs à une connivence, donc il y avait une intimité parce qu'ils se voyaient tous les jours, mais aussi parce qu'il y avait des affinités entre deux. Et puis, rapidité, c'est-à-dire que quand l'un apportait, donc si Boris Vian apportait un texte, ou bien si Jimmy Walter apportait une musique déjà faite, dans ce cas-là, donc celui des deux qui avait fait sa partie, si l'on peut dire, s'absentait, et l'autre, selon les termes de Jimmy Walter, mettait un point d'honneur à finir le temps que l'autre vienne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté d'aller vite sur les chansons et de travailler vite ensemble. Et puis alors, il y a un troisième cas de figure, dit-il, le plus fréquent et qui est extrêmement intéressant si on veut penser Boris Vian comme aussi musicien de ses chansons, c'est un cas de collaboration complètement parallèle où en fait ils arrivent l'un et l'autre sans avoir rien préparé. Ils se mettent donc, c'est chez Boris Vian, l'un au piano, l'autre à son pupitre, et puis l'un des deux, le premier qui a une idée, la lance. Et l'autre prend l'idée et en fait quelque chose. Donc si c'est un texte, Jimmy Walter va mettre en musique. Si c'est Jimmy Walter qui lance une idée musicale, Boris Vian propose un texte. Et puis la chanson s'élabore en fait en dialogue. Complètement pied à pied, l'un avec l'autre. Et pied à pied et main dans la main, si l'on peut dire. Et en tout cas, il y a aussi une chose qu'il faut souligner, c'est que dans cette collaboration main dans la main, il y a le fait qu'il peut très bien y avoir interférence des deux rôles. C'est-à-dire que Jimmy Walter souligne qu'il a été contributeur de paroles de certaines chansons. Alors il évoque par exemple le fait que dans Je suis snob, l'idée de la télé à l'envers, c'est lui. Et que Boris Vian a pris cette idée qu'il a trouvée bonne, et il y en a d'autres. Et puis inversement, Jimmy Walter dit aussi, quand Boris Vian me faisait des suggestions sur la musique, alors je vais citer les propos exacts, quelquefois, pendant que je composais, Boris intervenait et me disait « Jimmy, tu ne penses pas que là, au lieu de répéter le thème, tu devrais partir dans une autre direction et trouver autre chose ?» Comme il était musicien, et surtout comme il avait un bon sens critique, je l'écoutais. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas penser qu'il y a une étanchéité des tâches et que l'un fait le texte et l'autre fait la musique. Vous voyez, c'est plus souple que cela. La deuxième chose qui me pousse à soutenir que Boris Vian, en étant auteur de textes de chansons, est aussi musicien, c'est qu'il y a une dimension proprement musicale du texte de chanson. Il ne faut pas penser le texte de chanson comme un poème, comme un texte littéraire. Le texte de chanson, il a une potentialité musicale qui est déjà là, et si c'est un bon texte de chanson, il est porteur d'une musique. Alors on peut dire cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, et bien évidemment, parce que toute langue a une prosodie. Il y a un débit, il y a des appuis rythmiques, il y a des inflexions mélodiques qui sont propres à une langue et propres aussi à une personne. Un texte de chanson, c'est donc aussi la musique des mots qui la constituent. Mais il y a d'autres choses plus précises et qui nous font entrer plus précisément dans la spécificité, disons, des chansons de Boris Vian. Par exemple, le traitement des répétitions. Alors, le traitement des répétitions, c'est une chose essentielle dans la structuration d'un texte de chanson. On pense au refrain, mais pas seulement. Quand Boris Vian répète « il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal » dans l'enregistrement très célèbre de Magali Noël de « Fais-moi mal, Johnny », il y a une structuration musicale d'un texte, et là on est quelque part, il est auteur de cela, mais en étant auteur, il est en même temps musicien, on ne peut pas dissocier les deux, même si on peut être amené à penser que c'est quelque chose d'embryonnaire du point de vue musical, en même temps parfois il y a autant d'idées dans une toute petite idée musicale que dans beaucoup de notes, hein, donc voilà. Et puis une troisième chose, c'est un procédé qui est très fréquent dans les chansons de Boris Vian, et qui est l'énumération. Alors l'énumération, c'est donc dans un texte de chanson, une énumération, pour moi, c'est une accroche musicale évidente. Il y a beaucoup de raisons à cela. Une énumération, c'est un rythme scandé, haché, forcément, hein, par définition, puisqu'on accumule des choses qui sont isolées l'une de l'autre, qui s'ajoutent les unes aux autres de manière un peu disloquée. Et puis, donc il y a cet effet déjà de hachure. Après, il y a le rythme induit par l'énumération, puisque chaque membre d'énumération porte un appui, donc ça multiplie un peu les appuis rythmiques. Puis vous avez, encore une fois, les appuis mélodiques, puisque dans une énumération, on va soulever la voix mélodiquement à chaque fin, enfin à chaque élément de l'énumération. Or, si vous pensez, par exemple, à La Complainte du Progrès, pour ne prendre que des chansons extrêmement connues et très célèbres, vous avez évidemment un jeu d'énumération qui est à la fois une création esthétique textuelle, avec les néologismes, les rimes qui se veulent, enfin qui sont surprenantes et drôlatiques, mais vous avez aussi l'exploitation musicale pleine et entière de ce fait de l'énumération. Et alors, dans l'énumération, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que si l'énumération est peut-être un des apports, une des contributions à la musique de chanson par Boris Vian, c'est-à-dire que vraiment ça fait partie intégrante des possibilités de la chanson en France, probablement à travers cette œuvre chanson qui est pour moi un peu une plaque tournante, hein, de ce qui s'est passé dans l'histoire de la chanson en France. En même temps, il ne fait que réactualiser des choses qui existent antérieurement. Et je ne prendrai qu'un exemple, encore une fois, pour parler aux imaginations et en allant très vite, souvenez-vous juste de l'inventaire de Prévert, qui est de 38. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de reprendre pleinement en tant à la fois que auteur et que compositeur, un élément stylistique qui va devenir ensuite majeur dans ce qui va caractériser une chanson d'écriture française. En quoi d'autre peut-on dire qu'il y a un apport proprement musical de Boris Vian à travers ses chansons? J'avais en tête un développement que je ne vais pas vous faire entièrement, mais en tant que critique, que décideur, que choisisseur, il a travaillé chez Philips, il a supervisé des séances de, il a sélectionné des artistes, supervisé des séances d'enregistrement, il a eu un travail de critique. Alors, on a parlé un peu de la critique ce matin, je reprends ce mot de critique, après même s'il faudrait le nuancer, mais en tout cas un point de vue réflexif, synthétique, et en même temps qui prend position, pour moi c'est de la critique. Donc il a un apport critique sur la chanson, qui fait qu'il y a un point de vue sur la chanson et les différents courants de chansons qui existent, qui sont tout à fait importants. Mais je laisse ce développement de côté, et j'en viens tout de suite aux positions de Boris Vian vis-à-vis d'un certain nombre de styles musicaux. Alors, évidemment, et on l'a vu ce matin, hein, Boris Vian aime le jazz, pratique le jazz, connaît le jazz, il en soutient la diffusion, etc. Est-ce qu'on peut penser pour autant que cet amour du jazz imprègne complètement les chansons, pas nécessairement toutes celles qu'il a composées, mais qu'à travers ses arrangeurs, par exemple, ou ses compositeurs, il aurait pu infléchir les directions stylistiques de ses chansons vers le jazz? Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a rien de systématique, même s'il y a beaucoup de chansons qui ont des sonorités jazz, il y en a tout autant qui n'en ont pas. Et en particulier, Jimmy Walter m'a raconté aussi, lors de cette interview, que pour On n'est pas là pour se faire engueuler, Boris Vian avait explicitement demandé à Jimmy Walter un arrangement qui ne soit pas jazz. C'était une volonté, il ne voulait pas que cette chanson-là soit arrangée comme ça. Et Jimmy Walter a fait comme il disait, et effectivement, l'arrangement de Jimmy Walter pour cette chanson n'a pas de sonorité de jazz. Par ailleurs, et au chapitre des styles, parlons très brièvement des rocks. Les fameux rocks de Boris Vian, donc à la fois ceux qu'il a fait avec Henri Salvador en 1956, et puis un peu plus tard, ceux qu'il a confié à Magali Noël, qui n'était pas composé par lui. Ce qui me paraît moins intéressant, et là qu'il faudrait creuser musicologiquement, et je ne l'ai pas fait, c'est que les couleurs des rocks de Boris Vian ne sont pas les couleurs des rocks de 56 des USA. Si vous repensez aux grands rocks, je dis 56 parce que c'est une année où il y a énormément de rocks très très célèbres aux USA qui sont sortis là en 56. Si vous pensez aux rocks de Jane Vincent, de Presley, de Chuck Berry, de Little Richard, de Jerry Lee Lewis, toutes ces pièces-là qui sont restées dans les mémoires n'ont pas les mêmes couleurs, et pour beaucoup de raisons. Alors je vais pas lister, il y a au moins, disons, l'utilisation de la voix, la structuration par les grilles, le fait qu'il y ait des grilles confiées, je parle là des rock USA, généralement au moins une grille confiée à un solo instrumental, souvent la guitare électrique qui est extrêmement présente, qui fait partie des sonorités qui vont emblématiser cette musique, souvent aussi le saxophone ténor qui lui ne va plus emblématiser cette musique assez rapidement, mais qui dans les années 50, il est très présent dans le rock. Et ces caractéristiques-là qui font une espèce d'homogénéité de son entre les différents artistes que j'ai énumérés tout à l'heure, ce n'est pas du tout ce qu'on entend quand on entend « Fais-moi mal Johnny » ou « Rock'n'Roll Mops » ou ces chansons-là. On entend autre chose. Cette autre chose, stylistiquement, il faudrait creuser son rapport soit au jazz, mais là, c'est un travail à faire complètement, hein, soit je pensais peut-être au rhythm and blues, c'est-à-dire à une forme qui est transitoire entre un jazz swing et puis le rock and roll tel qu'il se fera dans les années 50. Bon. Par ailleurs, toujours au chapitre des styles et de Boris Vian vis-à-vis des styles, on sait bien que parmi les chansons de Boris Vian, beaucoup reprennent on peut presque dire des formats stylistiques qui sont extrêmement courants depuis des décennies dans la chanson. Et je pense en particulier au java, au tango, qui sont nombreux dans ses chansons. Et encore un peu plus rare, alors là je voulais le faire écouter, Ça nous met bien en retard, mais vous l'avez peut-être en tête, on va au moins écouter le début. C'est Bourré de complexes, qui est dans les chansons Impossibles et Possibles. Donc Bourré de complexes, oui, ça reprend alors pas un style, mais un genre, qui est la bourrée. Alors là, la bourrée, c'est pas du tout un genre banal dans la chanson française de music hall, vous voyez, hein. Donc, on va juste la réécouter, hein, c'est Alain Goraguer. La deuxième.
Pendant ce temps-là, je vous passe juste des listes que j'ai établies sur les chansons qui reprennent des styles musicaux. Voilà, donc ça pour le rock. Après, vous avez ça aussi, c'est intéressant, je trouve, de voir comment le...
Elle s'appelle Marie-France, elle a tout juste 20 ans et elle vient d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant qui a beaucoup d'espérance. Mais depuis son mariage, chacun dit en la voyant, bourrée de complexe, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée, elle s'ennuie.
Je l'arrête brutalement et peut-être comme vous, mais moi je l'écouterai bien en entier une fois de plus. Mais il s'agit surtout de vous souligner le fait qu'un style musical... Bon, là, c'est un genre, et je ne vais pas entrer dans le débat qu'est-ce qu'un genre, qu'est-ce qu'un style, mais en tout cas, l'utilisation d'un format musical préexistant, bien connu et reconnaissable, il n'est pas finalement pour Boris Vian l'appropriation en profondeur, l'identification à un idiome musical qui lui serait propre et à travers lequel il va exprimer ce qu'il a exprimé. Il y a ici un jeu sur le sens, sur un jeu de mots, un calembour, sur le, juste simplement, elle est bourrée de complexes et dessous il y a une musique de bourrée. Évidemment, les choses n'ont pas de rapport, c'est un jeu de mots. Mais il me semble qu'il y a une attitude vis-à-vis des styles musicaux qui là, finalement, on peut la transposer à l'utilisation des java, des tangos, voire éventuellement des rocks. C'est-à-dire qu'il y a une mise à distance ironique du style qui est pris comme un élément de sens et pas nécessairement comme un substrat de l'expression. Si vous comprenez, tant mieux. Sinon, tant pis, parce que je ne vais pas prendre le temps de l'expliquer davantage. Je vais passer maintenant au dernier point qui est, pour moi, un apport musical de Boris Vian à travers sa carrière comme interprète de ses propres chansons, où il a... Je me suis amusée avec Chansons impossibles et Chansons possibles, qui sont les chansons qu'il a enregistrées sur disque en 55 ou 56. Là, c'est Cécile, mon experte. Et lui, il a une voix impossible. C'est-à-dire qu'il a une voix que personne, aussi bien Canetti que lui-même, Vian, que Jimmy Walter quand il en parle, ce n'est pas une voix qui va passer sur scène, c'est une voix qui est hétérogène entre le grave et l'aigu, qui est assez faible dans les graves. Il a pas une voix où on se dit tout de suite « Ah, il faut le mettre sur scène, tout le monde va avoir envie de l'écouter. » Il se met sur scène et il insiste, il chante ses chansons avec toutes les difficultés légendaires qu'il a rencontrées. Alors, Jimmy Walter dit, quand il entrait sur scène, on avait l'impression qu'il affrontait le peloton d'exécution, tellement il était blême, raide, pâle, pétrifié de trac. Et puis vous avez toutes ces... Enfin, d'innombrables témoignages sur le mal-être en scène de Boris Vian. Or, il me semble que presque ça aussi, c'est un apport, il y aura un héritage musical de cela, parce que finalement, en assumant la voix laide qui va malgré tout porter ses textes, et malgré parfois le public, hein, Jimmy Walter dit aussi qu'il l'a vu parfois recommencer 12 fois de suite le déserteur, parce qu'à chaque fois il était interrompu par les huées et les sifflets, et qu'il n'acceptait pas l'idée de ne pas la chanter, que donc, quand c'était fini, quand le public s'était calmé, il recommençait, il a dit jusqu'à 12 fois. Et il me semble que là, il y a aussi la création de quelque chose qui touche de près à la musique, hein, qui est la manière de poser la musique en scène, et dont on peut retrouver l'héritage dans de grands mal à l'aise de l'avenir. Et peut-être, pour conclure très très rapidement ce très rapide survol, on pourrait dire que... à travers cette posture d'interprète, l'interprétation n'est pas tant un métier, je ne dis pas plus tant, parce que je pense qu'avant, il faudrait voir des exemples, mais en tout cas, n'est pas tant un métier avec, si vous voulez, les ficelles d'un métier, les techniques à maîtriser avant lesquelles on n'est pas interprète, et puis si on les a, on est interprète. mais qu'on peut probablement plutôt parler d'un art d'être interprète de chansons, en ce sens hein, des idées qu'on associe à cette notion d'art, qui serait la réinvention perpétuelle de la manière de faire, la relativisation des règles et des techniques acquises, et l'expression d'une individualité, d'une singularité, plutôt que l'asservissement par rapport à d'autres personnes qui seraient, elles, les vrais artistes. Voilà, je vais m'arrêter là, et puis... peut-être qu'il y a des questions, et sinon... On...